Toute la vérité, c'est le thème de l'université d'hiver du barreau de Paris qui se tient à Sciences Po hier et aujourd'hui en partenariat avec notre radio. Alors on y interroge la vérité et le mensonge sous toutes leurs coutures, dans tous les domaines, par tous les prismes, avec ce doute permanent évidemment quant à la possibilité de la vérité. Et puis, plus on interroge la vérité, plus on doute. Évidemment, c'est le serpent qui se mord la queue et le serpent, comme chacun sait, il ne dit pas la vérité, il ment. En amateur d'art et de littérature, moi j'ai toujours préféré les petits arrangements avec la vérité. Tiens, je vais même vous faire une confidence ce matin, si j'aime la radio non filmée, c'est parce que c'est le média du mensonge. Bien plus qu'Internet, que la presse écrite ou la télévision, où on est toujours soupçonné de maquiller la réalité. Non, la radio, c'est beaucoup plus fourbe. Vous n'y voyez rien et vous ne pouvez pas vérifier. Cet entretien, moi je vous dis qu'il est en direct, mais si ça se trouve, il date d'il y a 2 mois. Ça tombe bien, les caméras ne marchent pas. Et qui vous a dit que j'étais dans un studio? Si je glisse le bruit de la mer en fond sonore, la vérité c'est qu'on sera d'emblée, comme ça, à Osgore. Je peux tout manipuler, y compris mon invité, quand je le décris par exemple. Qui vous prouvera qu'il avait cette tête-là ou ces vêtements-là, j'ai tous les droits, et vous, celui de me croire ou pas, si ça se trouve, je raconte n'importe quoi. Vous pouvez le penser, je vous y invite même à douter, toujours, à interroger, encore, à imaginer.
France Inter. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Jusqu'à quel point mon invité est-il dupe de ce qui se joue autour de lui, à la radio, mais surtout dans la vie? Contre quel mensonge, pour quelle vérité se bat-il aujourd'hui? Champion de la décroissance et de l'agroécologie dont il est l'un des pionniers, il est devenu avec son fameux mouvement du colibri une icône de la résistance face aux folies de la modernité et de la consommation à outrance. Ces mois derniers ont paru coup sur coup un livre d'entretien, L'agroécologie, une éthique de vie, un recueil de fragments, La puissance de la modération, sans parler de la réédition en poche de son manifeste vers la sobriété heureuse. Bonjour Pierre Rabhi.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Vous êtes du genre à douter, vous?
Oui, bah le doute, si vous voulez, il y a évidemment des fondements qui sont des certitudes. Et puis la vie étant très complexe, on ne peut pas ne pas douter.
Ça dépend des jours aussi. Je suppose là, par exemple, ce matin, vous êtes d'humeur douteuse, suspicieuse, méfiante ou plutôt confiante?
C'est vrai que l'humeur compte beaucoup parce qu'on est des êtres biologiques et on ne sait pas pourquoi. Un matin, on a tel état d'esprit. Le lendemain, on a un état d'esprit inverse. Est-ce que c'est le foie qui ne va pas? Est-ce que c'est les reins? Est-ce que c'est... Ouais, donc, nous sommes des êtres, évidemment, qui sommes très, très déterminés. Notre pensée est très déterminée, probablement, par notre fonctionnement simplement biologique.
Et alors aujourd'hui, vous êtes dans quel état, Pierre Rabhi?
Un peu mitigé, c'est-à-dire entre réalité et abstraction, puisque je vis à la campagne et qu'à la campagne, évidemment, il y a une espèce de stabilité des choses. Et puis quand je viens en ville à Paris, je suis dans l'effervescence.
Sur quoi est-ce qu'on nous ment le plus aujourd'hui, pour vous?
Les séries seraient énormes, mais il faut savoir aussi qu'est-ce que le mensonge, déjà, signifie quoi.
À vous lire, parce que je vous ai lu, du coup, pour préparer cette émission, j'ai l'impression qu'on nous ment, selon vous, sur une certaine idée du progrès et de la modernité. C'est ce qui parcourt, quand même, tous vos écrits.
Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire que le progrès qui était censé nous amener la béatitude et le bonheur, dans le principe, si vous voulez, dans le précepte, de la modernité, c'était, vous allez voir ce que vous allez voir, on va rentrer dans une ère du bonheur. Seulement, j'ai du mal à le voir, puisqu'on est dans une hyper-prospérité, et il paraît que je n'ai pas les statistiques précises, et nous sommes des grands consommateurs d'anxiolytiques.
Donc là, Pierre Rabhi, on est au beau milieu de la deuxième semaine de cette COP21. Pour rien que je vous ai invité aujourd'hui, 145 chefs d'État réunis la semaine dernière. Depuis le début de cette semaine, une centaine de ministres. Tout ça pour aboutir à un accord vendredi, un pré-accord aujourd'hui. Vous y croyez, vous?
J'avoue que non. Non, c'est-à-dire que je ne veux pas être désobligeant pour ces gens qui se sont réunis et qui se sont réunis peut-être pour certains avec une très grande conviction profonde. Donc je ne peux pas atteindre à leur rectitude, si vous voulez. Mais en termes de principe général, non, je ne crois pas à ça.
Vous allez plus loin. Hein. Très souvent, quand vous parlez des sommets internationaux, sur le climat notamment, vous dites que ce sont les lieux en fait, de manipulation de l'opinion, Pierre Rabhi.
C'est-à-dire qu'on a l'impression, déjà, tout ce qui concerne l'écologie, l'écologie est biaisée. L'écologie, c'est le principe fondamental de la vie. Donc ça concerne absolument tout le monde. Ou qui que l'on soit, on est concerné par l'écologie, puisque c'est le fondement de la vie. Il y a juste quelques jours, une femme est venue faire une enquête chez moi sur l'eau. Je lui dis, madame, vous êtes de l'eau. Et nous sommes tous de l'eau, tous de la terre, nous sommes tous là. Notre squelette, c'est du minéral, enfin, nous sommes cela.
Mais précisément, Pierre Rabhi, qui nous manipule et sur quoi ?
Si vous voulez, là, on continue encore dans l'illusion selon laquelle l'être humain est capable d'instaurer sur cette planète le bonheur absolu. Et il ne l'est pas. Il faut aussi savoir que quand on traite de ces sujets-là, le tiers-monde, les enfants qui meurent de faim toutes les 7 secondes ne sont pas concernés, et qu'il faudrait soit parler humanité, soit évidemment transformer le nationalisme, disons, de l'affliction du monde occidental.
Comment on fait, Pierre Rabhi, pour mobiliser la société civile ? Comment on fait pour transformer chaque citoyen en colibri ? Pour reprendre votre expression fétiche.
Je pense que ça ne se ferait pas si les gens ne ressentaient pas ce besoin. Je suis quelqu'un, s'il y a peut-être un mérite, c'est que je fais ce que je dis ce que je fais, et que je suis très très impliqué dans cette problématique du rapport entre l'être humain et la nature, et en particulier du rapport entre l'être humain et la terre qui le nourrit.
Alors je parle du colibri bien sûr parce que c'est votre emblème et votre métaphore préférée. Votre livre La part du colibri est devenu une bible autant qu'un best-seller et il s'inspire d'une légende amérindienne. Je la rappelle, un incendie, tout le monde panique et le petit colibri va transporter goutte d'eau par goutte d'eau de quoi éteindre le feu. À ceux qui doutent, il répond « je fais ma part ». Ça fait 50 ans que vous faites votre part, Pierre Rabhi. L'incendie entre nous, il tarde un petit peu à s'éteindre, non ?
Non, à mon avis, non seulement il tarde à s'éteindre, mais à mon avis, il s'amplifie. Il n'y a qu'à voir l'état du monde. L'état du monde n'est quand même pas n'évolue pas vers la sérénité, l'apaisement, etc. Et on peut même soupçonner que l'état du monde risque d'aboutir à quelque chose qui peut être une déflagration, d'ailleurs.
Pour autant, vous y croyez toujours, au pouvoir du colibri ?
Ah oui, oui. De toute façon, c'est une façon de... C'est une façon de s'imposer soi-même dans la complexité et de se mettre en cohérence avec soi. C'est tout. C'est simplement ça. Est-ce que je peux être cohérent avec moi-même entre mes convictions profondes et les actes que j'accomplis ? Je ne suis pas Dieu, donc je ne peux pas changer le monde à moi tout seul. Par contre, le peu que je peux faire, je le fais positivement. Et je le fais justement pour être une des personnes qui participent, disons, à la construction d'un monde apaisé, d'un monde fraternel.
Et jamais vous n'avez douté ?
Ah si, plein de doutes.
Encore aujourd'hui ?
Je doute tout le temps. D'ailleurs, le doute n'est pas négatif, puisque le doute nous amène finalement à approfondir et à voir si nous sommes sur le bon chemin.
Personnellement, celle qui me fait douter chaque matin, moi, Pierre Rabhi, dans Boomerang, c'est la culture et son actualité. Tiens, quelle est-elle aujourd'hui, mercredi 9 décembre ?
They want to shut us up. They want to silence us. We won't let them. Why should I allow them to stop us from enjoying freedom?
Ils veulent nous réduire au silence, mais nous ne nous laisserons jamais faire. T'inquiète Madonna, on ne lâche pas l'affaire. Dès ce soir, la Madone s'installe pour 2 jours de show événement à l'Accor Hotel Arena de Paris. Moins d'un mois après les attentats parisiens, les concerts de la Material Girl, qui avait rendu hommage aux victimes en chantant La vie en rose, dès le lendemain du drame, s'annoncent déjà comme une grande messe pop et lumineuse contre la morosité, l'obscurantisme et l'effroi. Viva Madonna ! Il est attendu, il a attendu, et il est enfin venu. Zaï, 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 le nouvel album du bédéiste Fab Caro a reçu hier le grand prix de la critique ACBD, l'association des critiques et journalistes de bande dessinée. À partir d'un fait divers loufoque, un homme part en cavale après avoir oublié sa carte conso au supermarché. L'auteur compose un récit drôlatique, miroir grinçant et drôle de nos petites vies confortables et apeurées, selon les mots du jury. Conquis, bravo Fab Caro.
I want you to look at me when I kill you. I want to see the light leave your eyes.
Pire que Voldemort pour J.K. Rowling, il y a Donald Trump. Dans un Twitter relayant un article de la BBC expliquant pourquoi certains Américains appelaient le candidat à l'investiture républicaine du nom du pire ennemi d'Harry Potter, la créatrice du Petit Sorcier à lunettes en remet une couche et taxe le politique aramège d'horrible. « Même Voldemort n'est pas si méchant », a-t-elle commenté, faisant exploser au passage le nombre de tweets, de likes et de commentaires. Une nouvelle trempe pour Trump. Aujourd'hui, l'événement au cinéma, c'est évidemment Brad Pitt et Angelina Jolie, Brad et Angelina, Brangelina, mais il n'y a pas que ça. Il y a Jean et Elsa, nos invités de lundi, qui nous embarquent dans 1+1, une nouvelle lelouchrie aussi marrante que charmante. Il y a Back Home, le drame sensible et élégant de Joachim Trier avec Isabelle Huppert et l'incontournable Jesse Eisenberg. Et sinon, il y a aussi Andrzej Żuławski, cinéaste mythique qui nous envoie dans le cosmos avec son adaptation décalée, baroque et surréelle du roman de l'écrivain polonais Witold Gombrowicz. Pierre Rabhi, mon invité aujourd'hui dans Boomerang. Vous êtes plutôt Claude Lelouch, Brad Pitt, Angelina Jolie, Żuławski?
Non, je suis Pierre Rabhi, c'est tout.
Non, quand je vous dis vous êtes plutôt, ça veut dire
oui.
Vers où se portent vos goûts, en fait, somme toute?
Non, je ne sais pas. C'est simplement un Pierre Rabhi avec ses 52 kilos tout mouillé.
Mais c'est une bonne question quand même. Quels sont vos livres de chevet, vous, ou vos séries?
Je n'en ai plus.
Plus du tout.
C'est-à-dire pendant longtemps, j'ai lu beaucoup, donc j'ai construit ma. J'ai essayé de me construire comme j'ai pu, ma pensée, mes engagements, etc. Avec notamment une femme courageuse qui s'appelle Michel, on a été dans une aventure singulière de retour à la Terre, parce qu'il y a déjà une cinquantaine d'années. Et ça a été mon grand mode d'expression sur cette vie, ça a été de prendre une petite terre ardéchoise et de l'aimer, de la nourrir pour qu'elle elle nourrisse ma famille. Et elle nous a bien nourris. Et puis voilà, je me sens milliardaire.
Je vous pose la question de la consommation de la culture, parce que la culture et les arts, je m'interroge, Pierre Rabhi, quelle place est-ce qu'ils auraient dans un projet agroécologique? Ce qu'aujourd'hui sont des secteurs quand même qui sont pleinement intégrés au système de production capitaliste. Donc comment ça se passerait?
Mais on a réduit la culture à la littérature, etc. La culture, c'est quelque chose de beaucoup plus large que ça. La culture, c'est pas de la littérature, de la peinture et de la musique.
C'est aussi.
Mais la culture, c'est tout ce que l'être humain a, depuis des origines, acquis, qui lui permettent de survivre. D'abord, c'est magnifique. Comment voulez-vous que la culture puisse survivre s'il n'y avait pas eu des paysans qui ont nourri les gens, s'il n'y a pas la terre, etc. Si le paysan disparaît, et pourtant il est en train de disparaître pour devenir malheureusement un simple exploitant agricole, depuis l'origine, la culture, ça n'a pas été que de la littérature et toutes ces choses-là. Je suis dans la littérature moi-même.
C'est intéressant ce lien que vous faites toujours, hein, entre nature, culture, agriculture. On peut dire quand même, Pierre Rabhi, que certaines civilisations valorisent plus ou moins la relation à la terre. Dans l'introduction de votre nouveau livre d'entretien, L'agroécologie, une éthique de vie, vous émettez une hypothèse que je trouve absolument fascinante. Vous dites que les religions monothéistes, judéo-chrétiennes ou musulmanes, seraient incompatibles avec le respect des équilibres naturels. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Je persiste et signe. C'est-à-dire que dans le principe fondamental, disons, des religions monothéistes, c'est que Dieu a été l'auteur de la vie, l'auteur de la terre. Donc, ce qui m'étonne, c'est qu'après cette proclamation, que les monothéistes n'aient pas été les premiers écolos. C'est-à-dire qu'il aurait été logique de dire n'abîmons pas, ne portons pas atteinte à Dieu, puisqu'il a, c'est lui qui a créé la terre, la vie, etc. Et toute profanation est une atteinte à sa dignité. Ça aurait été, bon, je simplifie peut-être, mais c'est comme ça que ça aurait dû être. C'est pas du tout le cas. Et l'écologie est devenue maintenant une affaire subsidiaire qu'on arrive à rattraper, à coller comme... l'écologie politique est une anomalie, parce que chacun de nous est lié intrinsèquement et indéfectiblement aux lois de la vie. Donc c'est pour ça qu'il y a cette scission entre la nature et nous est totalement anormale. C'est ce que je disais tout à l'heure, nous sommes tous de l'eau, nous sommes, etc.
Pour le rapport à la terre, Pierre Rabhi, c'est toujours d'abord une question spirituelle?
Tout peut être spirituel. Tout est spirituel. Il n'y a pas que le rapport à la terre. C'est-à-dire que l'esprit, ce n'est pas pour autant tomber évidemment dans des sectarismes ou des machins comme ça. C'est simplement la sensation simple qu'il y a une intelligence globale Et là, je rejoins évidemment Socrate, parce que Socrate, vous savez, la philosophie est une quête de la vérité. Mais le problème, c'est que les philosophes ne s'entendent pas. Et quand Socrate dit « tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas » ou quelque chose de ce genre-là, moi, ça me convient tout à fait, parce que c'est la réalité absolue. Qu'est-ce que nous savons ? Nous ne savons rien.
Et en quoi est-ce que vous croyez, vous ?
Je n'ai pas de croyance. Je pense que je suis évidemment un défenseur de la nature. Je vois l'intelligence et la beauté de la nature. J'essaie de la défendre. Et puis voilà, je crois à ça. Parce que si nous tuons la Terre, on tue les générations qui viennent.
Si on croit, je crois. Je crois. Moi, Pierre Rabhi, je vais vous dire, c'est la musique. C'est de la musique pour la planète, hein, s'il vous plaît. 1970, la géniale Joni Mitchell et son gros taxi jaune, vous vous souvenez ? Vous êtes sur France Inter avec Pierre Rabhi. Vous écoutez Boomerang. They paved paradise, put up a parking lot. With a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
C'est vrai que face à lui, on se sent un petit peu comme l'éléphant face à la petite souris. On est intimidé par tant de mignonnerie. Regardez-le, tout rikiki, visage buriné, petits yeux marrons, plein de malice, un petit peu fatigué, quand même moins perfourasse que vieux sage éclairé. Et notez quand même que sous ses airs inoffensifs, sommeille à n'en pas douter la force tranquille du lion. Pull bleu marine, pantalon vert bouteille en velours côtelé, chaussures en cuir. Il est plus mignon que Jean d'Ormesson, plus exquis que Gandhi. C'est un colibri. Pierre Rabhi, mon invité dans Boomerang, pour parler d'agroécologie, évidemment, de sobriété, de nature, mais aussi un peu, quand même, de poésie. Puisqu'il en est question, Pierre, par petites touches, dans vos ouvrages, moi, je dois vous dire, c'est ce qui me fascine. À travers les histoires que vous racontez, à travers les métaphores que vous convoquez, mais aussi à travers certaines de vos réflexions. Je pense, par exemple, à ce que vous dites sur la dépoétisation du langage agraire, en faveur du sérieux du langage technologique. Qu'est-ce que vous entendez par dépoétisation ? Pierre Rabhi.
Vous voyez bien que le monde est dépoétisé, c'est-à-dire qu'en fait, disons la proclamation du monde actuel, c'est-à-dire que celui qui a rompu en quelque sorte de plus en plus avec la réalité vivante et qui a confiné les êtres humains dans du hors-sol urbain, qui les a donc retranchés des racines même de la vie elle-même, a produit évidemment une sorte de comportement minéral et angulaire. Et donc la beauté en quelque sorte qui devrait être omniprésente en tout, nous lui tournons le dos alors qu'elle préexiste à nous. Et puis ensuite, on crée de l'artifice pour essayer de trouver cette beauté à travers finalement l'artifice.
Alors voilà. C'est quoi la belle poésie du langage agraire ? Ça renvoie à quel mot pour vous, Pierre Rabhi ?
le langage agréé est beau. Par exemple, un agronome, le fameux agronome paysan Olivier de Serres, moi, j'étais enchanté de la façon dont il y présentait l'agriculture. Il ne la présentait pas avec des mesures, des statistiques, des substances, des choses. Il la présentait comme Homer, quoi. Enfin,
avec Homeric, des images.
Avec de belles, belles images. Et moi, j'essaye aussi d'introduire dans mon langage, humblement, le fait que la nature, ce n'est pas simplement. La nature, c'est beau. Et on ne parle jamais de la beauté de la nature. Et j'ai une petite anecdote comme ça. Un ami vient m'aider à couper du bois, etc., chez moi. Et puis, je vais l'aider. Et puis, la journée tombe, la fin de la journée tombe. Et puis, il y a un magnifique coucher de soleil. Il y a le soleil rouge qui descend dans l'horizon. Et sur ce panorama se découpe un arbre magnifique. C'était l'hiver, donc il était dénudé. On aurait dit une espèce d'œuvre d'art magnifique qui se plaquait sur le paysage. Et j'étais vraiment subjugué. On se nourrit de cette beauté extraordinaire. Et lui était en train de ranger les outils, et j'ai envie de lui faire participer. Il vient, je lui dis regarde, comme ça. Il me dit, il y a au moins 10 stères. Vous voyez ? C'est-à-dire que l'arbre est devenu des stères, alors que l'arbre, c'est un être vivant. Et c'est un être où les oiseaux viennent se réfugier, chantent, les feuilles, tout ça. Mais on s'est éloigné. La rationalité nous a tellement desséchés que nous sommes de moins en moins sensibles à tout cela. Alors il y a beaucoup de professionnels qui essayent de rétablir la beauté qui devrait être une beauté naturel et accessible à tous.
Ce qui est intéressant, c'est que votre langage, vos images, Pierre Rabhi, votre parole, votre langue, ils sont écoutés, ils nourrissent beaucoup de gens, ils sont entendus, ils sont même très souvent, mais alors très très souvent, repris.
Les personnes imaginent que c'est très difficile de faire quelque chose. Et en fin de compte, c'est assez facile. Chacun peut faire quelque chose. J'ai découvert cette petite histoire de Pierre Rabhi qui en dit long, justement, sur la participation des gens.
C'est notre rôle à tous, quoi, de faire sa part, quoi. C'est ce que j'aime bien, d'ailleurs. Ça fait penser à Pierre Rabhi et à son colibri.
Pierre Rabhi, hein, sur les qui est un homme incroyable. C'est un personnage atypique et qui se bat et qui a pour ses convictions. Il aime le vivant, il aime la terre.
À la fin de mes remerciements, j'ai parlé d'Hubert Reeves et de Pierre Rabhi parce que de par leur lecture, de par les écoutes de leurs interviews, de par leurs mots et surtout de par leur action.
Et je me souviens, la première rencontre, j'étais très émue parce que pour moi, c'était vraiment rencontrer une de mes idoles.
Il fait des choses qui marchent, c'est-à-dire que c'est pas une utopie, c'est pas juste des rêves, c'est concrètement, ça fonctionne. Plutôt que d'attendre que le système change, faut le changer, nous.
Ces deux hommes-là, ils ont le recul nécessaire pour nous faire nous rendre compte de l'utilité que nous pouvons avoir si nous nous posons les bonnes questions pour le monde dans lequel on vit.
Peut-être les avez-vous reconnus, eux.
Merci
en tout cas,
beaucoup,
ils vous connaissent très bien,
oui,
non, Pierre Rabhi.
Je les connais, je les aime bien.
Sylvie Guilhem, Mathieu Chédid, Zaz, Julien Doré, Marion Cotillard, on pourrait ajouter Juliette Binoche, Mélanie Laurent, sans compter les hommes politiques, comme Alain Juppé, Stéphane Le Foll ou Nicolas Sarkozy, qui voulait vous rencontrer, d'ailleurs il l'a fait juste avant cette émission. Tout le monde vous cite, à qui mieux mieux. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, honnêtement, parfois d'être regardé comme une sorte de prophète ou comme une sorte de gourou, ce qui peut... possiblement vous ennuyez.
Dieu m'en garde, je ne cherche absolument pas. Alors là, ce serait l'horreur de me prendre pour un gourou, prophète peut-être par anticipation. C'est pas le prophète barbu à barbe blanche.
Vous avez une petite barge. Hein, une petite
oui,
barbe.
Elle est vraiment succincte.
Mais quand vous publiez, par exemple, Pierre Rabhi, un recueil de fragments, oui. D'aphorismes, de citations, est-ce que ça n'a pas tendance à réduire un petit peu votre pensée, justement?
Je ne sais pas. J'ai dans le monde d'aujourd'hui, l'expression est multiple. Moi, ce que je cherche, c'est de tout mon cœur à rejoindre le cœur des autres ou l'âme des autres. C'est ce que je cherche. Je suis plus dans la sociologie des consciences que la sociologie des individus.
Et dans une conscience aussi de la sociologie d'aujourd'hui, la surmédiatisation, Pierre Rabhi, elle est nécessaire?
Je ne sais pas. Il y a, si vous voulez, je suis parfois très dubitatif par rapport à ça. Moi, tout ce que je sais, c'est que je ne suis pas la source de ce que je dis. Je vis de ce qui naît en moi, de ce qui peut-être avoir une utilité dans le changement de la société, et je le partage avec les autres. Donc, ma mission, c'est d'être au service de ces... Au service, hein, j'insiste bien, au service, je ne suis pas en train de me servir. C'est d'être au service de ce qui me paraît beau et important. important pour que la vie ait un sens.
Mais entre nous, Pierre Rabhi, parce que là, on est entre nous, à aucun moment vous n'avez peur d'être récupéré hein, par des géants richissimes, qu'il s'agisse d'acteurs, de mécènes, de grands patrons, comme Jean-Pierre Petit, par exemple, le PDG de McDonald's France, qui vous a rendu visite dans votre jardin. Ça vous inquiète pas, ça?
Non, je reçois des âmes, je reçois des consciences et je ne suis pas du tout subordonné, peu importe que la personne soit riche ou pauvre. Je pense que c'est la personne elle-même dans sa spécificité qui est importante. C'est pas qu'elle soit riche ou pauvre, ça c'est tout à fait autre chose. Évidemment, je déplore bien entendu l'inéquité qui est sur cette planète, qui fait que il y a des gens qui ne savent que faire de leur de ce qu'on appelle les biens. Enfin bon, est-ce que c'est des biens? J'en sais rien. Et puis par ailleurs, à côté de ça, on dégringole la pyramide et on trouve des enfants qui meurent de faim toutes les 7 secondes. Donc il y a quelque chose de terrifiant et de terrible dans l'organisation du système humain. Et c'est en termes de système humain qu'il faut travailler. C'est pas seulement en termes de nation, parce que les nations se divisent entre elles. Ça justifie la défense nationale, qui justifie les armements, et ainsi de suite. Et on est donc dans le labyrinthe et dans l'obscurité.
Dernière question, Pierre Rabhi. En 2002, vous aviez fait une pré-campagne pour les élections présidentielles. Rabhi, président en 2017, ça serait possible?
Non, Dieu m'en garde. Parce que je ne pense pas que ce soit ça. Par contre, je suis en train, et je tiens à le dire, j'envisage vraiment, compte tenu que ma campagne de 2002 s'est transformée en forum civique, je voudrais vraiment que l'on fasse un forum civique national pour célébrer la créativité de la société civile, parce qu'elle est immense.
Vous avez été entendu. Merci, Pierre Rabhi, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que l'agroécologie, une éthique de vie, entretien avec Jacques Capla, est publié aux éditions Actes Sud, qu'on peut aussi lire votre recueil de citations, La puissance de la modération, chez Ozoni Édition. Et puis, évidemment, Vers la sobriété heureuse, qui est republié en poche chez Babel, En ces temps de gueule de bois. Ça fait du bien. Merci pour cette parole qui, comme à son habitude, est très belle et très limpide. Et merci à Sonia De Villers qui m'attend maintenant en place aux médias, l'instant M, juste après ça.
Je sais que le jour viendra où le vent se lèvera et nous serons des milliers. La nuit vous étranglera et sur vos corps allongés, les roses viendront pousser. Souviendrez de moi au moment de votre souffle dernier. Vous vous souviendrez du jour où vous avez mis ma tête à couper. Vous vous souviendrez peut-être, mais le monde vous aura vite oublié. Car il se souviendra de nous si l'histoire ne nous a pas effacés. Je ne suis plus là. Aujourd'hui c'est moi qui tombe, je rejoins l'armée des ombres, mais demain je reviendrai. J'irai danser sur vos tombes, juste après la pluie qui tombe, l'herbe viendra repousser. Vous vous souviendrez de moi au moment de votre souffle dernier.
La Rose Blanche, le nouveau Mickey 3D, qui seront très bientôt. On se réjouit des invités de Boomerang. C'est l'heure de l'instant M, l'instant média de France Inter, avec la super Sonia De Villers et Frédéric Becbédé, paraît-il.
La super Sonia. Je pensais que j'allais avoir droit, je sais pas moi, à la rose rouge.
Ah non. Ah, pas
non.
Du tout, Sonia.
Non, pas du tout.
On se voit demain.
Bon, bah ok, je me rhabille. Salut.
Salut.